Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse.
Bonjour à tous, je suis en compagnie de Ramon Junquera. Bonjour Ramon.
Bonjour.
Alors nous sommes dans un très beau centre, le centre de Touche Noire, qui se trouve dans le centre de la France, en Indre. Et j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Et donc j'ai décidé de vous interroger sur votre cheminement, parce que je sais que vous êtes en quête depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, vous proposez vous-même un accompagnement. Donc voilà, je viens vous interroger sur votre parcours. Alors, ça a commencé quand pour vous, cette quête intérieure ?
Ma quête, elle a commencé il y a une trentaine d'années, quand après une première partie de vie tumultueuse, je rencontre mon épouse, je fonde une famille et toutes ces énergies-là me remettent à tenter de vivre une vie moins tumultueuse. J'ai grandi dans les quartiers chauds, j'ai eu une jeunesse difficile, comme on peut vivre dans ces endroits-là, et j'ai eu des problèmes d'addiction assez forts, et donc je me reconstruis. Et dans cette reconstruction de mon être, surtout à partir en plus du moment où mes filles naissent, et dès la naissance de ma première fille, il y a quelque chose en moi qui reprend contact avec le sacré, avec le besoin de sacré, parce que avoir donné vie, prendre ce premier petit être dans mes bras et ensuite ma seconde fille dans les bras, ça me redonne un sens du sacré, moi qui l'avais complètement perdu dans ma première partie de vie.
Oui, surtout que on peut le dire, vous êtes issu d'un milieu, vous me disiez communiste, athée, donc j'imagine que le sacré, on n'en parlait pas dans votre famille.
Voilà, je viens en plus d'un milieu très communiste. Je suis espagnol, je viens du nord de l'Espagne. J'ai émigré en Belgique, mais je viens du nord de l'Espagne, de chez les mineurs, très rouges, très anti-franquistes, anti-église aussi. Donc moi, j'ai grandi plutôt dans un rejet de la foi qui avait été très complaisante avec le fascisme franquiste. Donc voilà, déjà, familialement, on m'éloigne de la foi. Et en plus, de grandir dans les cités, c'est pas des hauts lieux cultes de la foi, de grandir dans les cités et de mener une vie jusqu'à 25 ans assez marginale. Donc voilà, je suis vraiment pas prédisposé à ça, mais en me reconstruisant et en voyant naître mes filles, un besoin de sacré revient. Et puis surtout, j'ai une seconde chose, c'est que je tente de redevenir une bien meilleure personne pour équilibrer mon couple, pour être un papa à la hauteur de cet événement que d'avoir donné la vie à des êtres. Et je sais que c'est très fragile, cette reconstruction. Donc, j'ai envie de la renforcer. J'ai envie de me dire, oh là là, tout ça est bien fragile. Je sais que c'est vite fait de rechuter. Et j'ai très peur de rechuter. Donc, je me dis, déjà intuitivement, plutôt que de me battre contre moi-même, je vais essayer de faire un travail sur moi. Je vais essayer de me renforcer. Je vais essayer de faire des efforts pour être meilleur. Et ma quête commence à cet endroit-là. Et puis le destin s'en mêle, c'est-à-dire des hasards s'en mêlent. Je vais à une bibliothèque, je prends une pile de livres, 4-5 livres, et au moment où c'est à mon tour d'y aller, je vois que je me suis trompé dans un livre et que j'ai pris un livre de Jung. C'est une erreur. Mais pour ne pas faire la file et recommencer, il y avait beaucoup de monde en plus, je prends le livre avec moi, je me dis, c'est pas grave. Mais en cours de route, je le lis. Enfin, il est là, donc je me mets à le lire. Et je ne savais même pas qui était Jung à l'époque. Ce livre me parle. Et en fait, par ce premier hasard, en tout cas un certain intérêt pour la psychologie et puis peu à peu par d'autres hasards à la vie spirituelle, se fait. Mais je dirais, avec mon consentement, mais malgré moi.
Eh oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un hasard ?
Aujourd'hui, je dirais que non, mais à l'époque, c'est pour moi tout à fait un hasard. Ouais. Auquel je dis oui, parce que j'ai quand même mon libre arbitre qui s'exerce et qui c'est quand même par intérêt personnel qu'à chaque fois, je rechoisis d'utiliser ces hasards plutôt que de les rejeter. Mais il n'y a rien de conscient, il n'y a rien de volontaire. ça me fait du bien, ça m'apporte certaines réponses, certains éclaircissements. Et voilà, je suis très pragmatique, c'est tout. Ça me fait du bien.
Alors, est-ce que dans cette période de reconstruction où vous avez rencontré votre épouse, vous avez eu vos enfants, vous dites que vous avez eu peur de rechuter, est-ce que c'est simplement le fait d'être papa et d'être mari qui a suffi pour que vous arrêtiez peu à peu vos addictions ou est-ce que vous avez déjà eu un premier accompagnement, peut-être psychologique ou médical, sinon de quel ordre?
Non, je fais des efforts déjà par moi-même. Et puis, dans cette quête, petit à petit, je rencontre plusieurs personnes, mais personne ne m'aide. Et le médical, ça ne me convient pas. J'ai essayé les méthodes classiques de sevrage et d'abstinence, et ça ne me va pas. Ça, voilà, comme pour beaucoup d'ailleurs. Par contre, je vais faire une rencontre déterminante. C'est la rencontre d'une vraie vie spirituelle en rencontrant Bernard Montault et... Je vais lui parler de mes problèmes d'addiction et il ne va jamais s'occuper de mes problèmes d'addiction. Il va s'occuper de renforcer le meilleur de moi. Il va me dire plutôt que de se battre contre tes problèmes d'addiction, tes problèmes d'addiction ne sont que le miroir d'un mal-être profond, d'une guerre contre toi-même. Donc on va mettre cet homme en paix. On va essayer de rendre meilleur cet homme parce qu'il va très vite me faire comprendre que dans son monde, dans son regard par rapport aux addictions, la meilleure solution, la plus lente peut-être, mais la plus durable et la plus fiable, c'est le meilleur de l'homme. Et que le meilleur de l'homme n'a pas envie de se détruire, le meilleur de chacun d'entre nous n'a ni envie de se détruire, ni de faire du mal à ceux qui nous entourent. Le meilleur de nous n'a pas envie de devenir dépendant de quoi que ce soit.
Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce meilleur de chacun de nous? C'est un mot qui est beaucoup utilisé et qui interroge beaucoup.
C'est l'amour, déjà la première étape, c'est l'amour pour le jeune homme qui avait tellement souffert qu'il n'a pas trouvé d'autre solution dans la fracture qu'il a vécue que de faire comme il a pu pour tenir le coup. Et je vais très vite comprendre que je ne suis pas un con, un salaud ou quoi que ce soit. Je suis un jeune homme qui, à 17 ans, vit un décès qu'il ne parvient pas à gérer. J'ai une perte qui me détruit, qui me fracture. Et que je ne dors plus la nuit. Je rêve de cette personne la nuit. Quand je me réveille, elle est vraiment morte. Enfin bon, bref, je fais ce qu'on dirait un mauvais deuil. Parce que je ne suis pas préparé. J'ai 17 ans autour de moi. Mes parents, on évite le sujet. Enfin bon... Et donc, je fais ce que je peux et je me rends compte. Le meilleur de l'homme, c'est ce qui commence à se rendre compte que le pire de nous n'est pas si monstrueux.
Oui.
Qu'on n'est pas monstrueux, oui. Qu'on s'est sûrement égaré, qu'on a fait des choses qui auraient été... on aurait eu intérêt à ne pas faire. Oui. Mais en fait, on se rend surtout compte qu'on a fait ce qu'on a pu.
Oui. Et que ça vient d'une souffrance profonde.
Que ça vient d'une souffrance profonde et qu'on a fait ce qu'on a pu avec les réponses et les moyens dont on disposait à ce moment-là. Et donc, c'est quand même d'abord et avant tout un chemin de conscience, parce qu'il faut être devant cette part de nous-mêmes, il faut retrouver la mémoire sur des choses que moi, je préférais gommer et effacer. Et ensuite, c'est un chemin de miséricorde, de compassion pour soi, et de dire, mais au fond, c'est un petit peu la grande phrase du Christ, hein, que le premier... qui n'a jamais péché, me jette la première pierre, ben, je me dis à moi-même, oulala, mais qui tu es pour te jeter toi-même la pierre? Mais mon vieux, tu as fait ce que tu as pu. Et au bout du compte, quelque chose qui va peut-être un peu choquer, mais j'espère que non, c'est, est-ce que j'ai la garantie que sans ces addictions qui m'ont permis de tenir le coup, j'aurais pas fait des gestes encore plus graves envers moi-même? Ben, j'en ai pas la garantie. Je n'en ai pas la garantie parce que à un moment donné, je vais tellement mal que je ne sais pas. Je ne sais pas si, au fond, ça ne m'a pas sauvé la vie. Je n'en ai pas la garantie. Et donc, on change le meilleur de l'homme. C'est un changement de point de vue sur ce qu'on appelait jusque-là le pire de soi. Moi, j'étais très coupable, j'étais très honteux.
Oui.
Je le cachais.
Oui, comme toutes tes addictions, voilà.
Ah oui, j'étais honteux.
On en a honte.
Devant mes parents, mes beaux-parents. Ma femme savait, c'était la seule, dès le départ. Il y a de la clarté, de la transparence, dès le départ entre nous, c'est la seule. mais même pour mes enfants, que je sais qu'ils vont grandir et tout et tout. C'est-à-dire, voilà. Donc le meilleur de l'homme, c'est déjà cette première étape, c'est celle qui, le meilleur de l'homme, donne du sens et de la miséricorde à tout ce qui nous semble insupportable de nous-mêmes. Après, le meilleur de l'homme, ce n'est pas que ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le meilleur de l'homme nous apprend à tirer profit de nos égarements. Le meilleur de l'homme sait que là où on s'est trompé, ce n'est pas grave si on en tire les leçons. L'erreur n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ne pas tirer de leçons de l'erreur. Mais si on se trompe et qu'on apprend et qu'on grandit, si l'erreur est source de croissance, est-ce que c'est un événement négatif dans notre vie? Non. C'est un point de passage difficile, mais qui est devenu un point de croissance. Donc moi, aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui ont des problèmes d'addiction, c'est ce discours que je tiens. On ne va pas se battre contre la drogue, contre l'alcool, contre ta boulimie, contre ceci, contre cela. On va renforcer le meilleur de toi. Et la première partie, déjà, on va essayer de donner du sens et de la miséricorde à cette femme boulimique, à cet homme alcoolique, à ce jeune homme qui se défonce, etc. On va donner du sens, on va rencontrer ça. Et ensuite, on va voir quand même, incroyable, que ça t'ouvre à des opportunités si on parvient à tirer des leçons de vie de ce que tu as traversé. Et ça, ils n'entendent nulle part ce genre de discours. Ils n'entendent pas qu'au fond, en fait, il y a des opportunités incroyables si on se sert de cette période d'addiction plutôt que de l'endurer, d'en avoir honte. Alors ça redonne de l'espoir. On se dit, donc je ne suis pas un monstre, donc je ne suis pas foutu. Ah non, pas du tout. Tu peux même en sortir grandi. Mais comment? Ah ben ça y est. On se met... Moi, quand ils me disent, d'accord, je veux bien te croire, mais je fais comment? Le plus difficile est fait.
Ah oui.
Tant qu'ils ne m'ont pas dit, mais comment?
Et puis, on pourrait dire aussi que l'autre façon d'en sortir grandi, en tout cas dans votre cas, c'est d'à votre tour accompagner ceux qui ont la même difficulté.
Mais c'est un des profits majeurs. C'est une des leçons majeures. Qui peut mieux aider quelqu'un qui a été violé que quelqu'un qui a lui-même subi un viol, mais qu'il a su dépasser et dont il a su tirer profit pour, par exemple, créer une association qui vienne en aide aux hommes ou aux femmes violées et qui a été un enfant martyr? Et qui peut mieux que cette personne créer? Je pense que là où on a souffert, si nous trouvons des solutions pour nous-mêmes, ben ces solutions sont des opportunités d'aide incroyables. Et donc soudain, c'est ça tirer la leçon, soudain, nos propres solutions s'avèrent précieuses pour les autres. Et après, ben, chacun essaye de rendre ce précieux sous telle forme ou une autre forme. Et donc on se dit, est-ce que finalement, ça n'était peut-être pas écrit dans ma destinée?
Alors nous allons faire la première pause musicale et nous allons revenir tout de suite après.
Feel alright. is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one?
Alors, nous sommes toujours dans l'émission Envie de sagesse et je suis en compagnie de Ramon Junquera. Et Ramon nous parlait de son parcours et sa quête qui revient de loin, qui s'est sorti de ses addictions et qui a ensuite accompagné des personnes. Alors, Ramon, vous avez donc proposé d'aider les personnes en addiction dans une association que vous avez fondée qui s'appelle Addict.
Oui, qui s'appelle Addict et qui aujourd'hui... Ah, je suis entouré d'autres addicts qui ont eux-mêmes suivi cette manière que j'ai de sortir de l'addiction. J'ai un médecin addictologue auprès de moi. Et puis, on a aussi créé une partie dans l'association vient en aide à l'entourage. Parce que quand il y a un addict, il y a au moins 5-10 personnes autour de cet addict qui souffrent. Et il y a un travail énorme à faire aussi pour venir en aide à l'entourage qui souffre. Et donc là aussi, on apporte des clés, des solutions à l'entourage. Donc voilà, ça c'est une association que j'ai créée il y a déjà maintenant pas mal de temps et qui va sa vie. Mais ensuite, il y en a beaucoup qui ont commencé à aller beaucoup mieux, comme moi-même d'ailleurs.
Oui.
Et donc le problème de l'addiction, c'est estompé. Donc on ne va pas être en train de s'occuper de l'addict qu'on a été alors qu'on ne l'est plus. Et donc, j'ai créé bien plus tard, comme pour moi-même d'ailleurs, quand il y a une vingtaine, même 25 ans, j'ai arrêté tout problème d'addiction, et aujourd'hui, je suis à des millions de kilomètres de ces problèmes-là, je me suis retrouvé à me dire, voilà, je m'en suis sorti, très bien, mais je fais quoi? Et là est venue la seconde étape de mon existence, c'est-à-dire une étape qui n'était plus liée à l'addiction, mais à continuer. Addict, c'est pour passer de moins 5 à 0, pour passer de moins quelque chose à revenir à un état normal. Après, j'ai fondé une autre association pour passer de 0, on va dire, d'un état normal à plus 5. Et là, c'est un tout autre travail. Bien sûr que les informations, que les expériences que j'ai eues dans Addict sont venues m'aider et elles ont influencé, mais j'ai ouvert une toute autre porte pour des gens qui, eux, n'ont aucun problème d'addiction, mais qui ont un autre problème, c'est on n'a pas besoin d'être addict pour vivre dans le pire de soi. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'addiction, mais qui ont quand même une vie remplie de souffrance.
Oui.
Et qui auraient bien besoin, eux aussi, d'accéder au meilleur d'eux. On n'a pas besoin d'être addict pour avoir besoin d'accéder au meilleur de soi. Et donc, dans un deuxième temps, il y a une dizaine d'années, et maintenant, ça a vraiment pris forme depuis 3-4 ans. J'ai créé un chemin spirituel inspiré du chemin spirituel que moi-même j'ai vécu auprès de mon mentor qui lui-même
l'avait
reçu de Gitamalas, le script des dialogues avec l'ange, et lui-même va fonder une voie spirituelle, etc. Donc moi, je vais être un élève spirituel et... Un jour, il va me dire, écoute, on ne peut pas être élève toute sa vie, on n'est pas élève à l'école toute sa vie. Un beau jour, il faut que toi aussi, maintenant, tu crées ta propre forme et tu retransmettes l'enseignement selon ta propre spécificité. Et ça, bon, ça fait une dizaine d'années que tout ça s'est construit petit à petit. Et depuis 3 ou 4 ans, j'ai créé une autre association qui s'appelle Yes Now. Oui, maintenant. Je l'ai mis en anglais parce que comme j'avais des gens qui venaient un petit peu partout dans le monde, l'anglais est une langue un peu plus internationale.
Oui.
C'est pour ça que je l'ai appelé Yes Now, plutôt que simplement en français Oui Maintenant.
Oui, puis ça fait un petit clin d'œil pour le film. Pour le film avec Jim Carrey.
Peut-être.
Sans doute que vous connaissez, où il se retrouve à dire oui à tout. Alors là, c'est bien parodique, mais vous, dans votre association, donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez ?
D'abord, j'ai donné ce nom parce que je pense que vivre, et les addictions m'en avaient donné le goût, vivre, c'est d'abord naître dans un oui. Quand naître, c'est rencontrer un premier oui. La naissance est un premier oui à la vie. Ensuite, vivre, c'est traverser plein de petits oui à des choses agréables, mais aussi à beaucoup de choses difficiles, compliquées, complexes. Et puis, je pense que mourir, c'est dire un dernier oui. Et qu'une belle vie, c'est quelque chose qui a accumulé des petits oui, des petits oui, des petits oui, et qui va même mourir dans un oui final. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun. Et puis, now, maintenant, parce que ces petits oui, c'est à chaque instant qu'il faut les rechoisir. C'est pas une fois, c'est pas des phrases oui. Oui, c'est tous les petits oui de chaque instant de nos vies, où il faut tourner nos yeux du côté de la vie, tourner nos yeux du côté du meilleur de nous, plutôt que du côté du pire. Et donc, le travail que je propose passe par un corporel où on devient d'abord un immense non, on ferme tout le corps, on ferme tout l'être, et puis on ouvre, on apprend à ouvrir le corps à ce nom que le corps a incarné, et qui va évidemment créer des images à l'intérieur de nous. En fermant le corps et en devenant un non, 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 ça va attirer des images sur un non qui nous habite en ce moment dans notre existence. Quelque chose à quoi on dit non, ou quelqu'un à qui on dit non, et qui est en train d'obstruer notre vie.
Dont on n'a pas forcément conscience, j'imagine.
Souvent, dont on n'a même pas conscience. Oui, il y a de très grands étonnements. Et parfois, on croit qu'on est en train de dire non là, et en fait, on se rend compte, ah mais non, mais pas du tout, en fait. C'est à ça que je suis en train de dire non. Donc oui, il y a toute une aventure intérieure avec ça. Et dans ce corporel, dans un second temps, il faut apprendre au contraire, comme une fleur, à ouvrir son corps pour dire oui, mais à ce dont on vient de dire non, c'est pas n'importe quel oui. Et donc là, pour le cerveau, c'est un exercice inaccessible, parce que le cerveau ne peut pas dire oui à ce qui hurle non en nous. Donc on est obligé d'aller rechercher d'autres ressources en nous et de se rendre compte que d'autres ressources savent, en tout cas peuvent nous approcher d'un oui, parfois même nous permettre de rencontrer un oui vrai, puissant, à quelque chose qui jusqu'à l'instant précédent, on disait non. Et donc voilà, on passe de ce non à cette tentative de oui, et dans ce corporel, la dernière partie, on s'assied et on essaye de rencontrer... donc on appelle ça le maître intérieur, ou moi j'appelle ça le silence qui parle, pour tirer un enseignement de vie ou un acte concret pour sa vie. En tout cas, il faut que j'enrichisse ma vie. Je viens de traverser cette expérience, il faut que je l'enrichisse. Ce corporel peut prendre, selon les modalités que je mets en place, entre une demi-heure et une heure. Il y a la version courte, une demi-heure, il y a la version longue, une heure.
Il peut se faire aussi en distanciel.
Ce n'est jamais l'idéal, le distanciel, mais par exemple, on a bien vu avec la pandémie et le Covid, qu'il vaut mieux en distanciel que rien du tout. Mais il n'y a rien à faire. Dans le présentiel, il y a toujours une force cellulaire supplémentaire. Donc tant que possible, il faut toujours vivre la vie spirituelle en présentiel. Ceci dit, il vaut mieux en distanciel que pas du tout.
Alors, j'ai une question que pourraient se poser les auditeurs. C'est que souvent, on entend dans les médias le discours un petit peu du développement personnel qui est de plutôt apprendre aux gens à dire non quand ils disent oui tout le temps. Est-ce que ça, c'est vraiment... est-ce que vous l'abordez, ce premier, on va dire, non, le oui de convention pour pas dire son non? Est-ce que c'est une étape avant d'aller vers le furieux non et le grand oui?
Mais c'est parce que nous sommes vides des vrais oui que nous sommes préoccupés par le non. C'est par absence des vrais oui dans nos vies, nous avons beaucoup de combats plus ou moins maladroits ou adroits avec nos non. Le jour où vous direz un vrai oui, les gens sont... Non nous met toujours en contact avec une fermeture. C'est toujours le problème, comme avec l'addiction. Soit on prend le point de vue de combattre la drogue, de combattre l'alcool, de combattre les médicaments, de combattre le produit qui nous fait du mal. On part en guerre, en croisade. Ou on prend un autre chemin qui est le mien, on renforce la personne, on renforce le meilleur. Je vais vous le dire autrement. Ou on combat dans une pièce l'obscurité, on veut combattre l'obscurité, ou on renforce la lumière. Et on se dit, mais en renforçant la lumière, l'obscurité immanquablement recule, sans qu'on y touche. Prenons que symboliquement, l'obscurité, c'est non, c'est une fermeture. Et prenons que symboliquement, la lumière, l'interrupteur que je vais appuyer, c'est le oui. Moi, je me préoccupe d'enseigner aux gens les vrais oui. Les vrais oui font leur travail, et donc du coup, les noms justes, qui sont simplement, qui ne sont pas des noms de fermeture, il existe des noms qui nous ferment, et il existe des noms qui sont simplement une préservation, par exemple, je ne sais pas moi, d'un espace vital, ou d'un temps de tranquillité, parce que non, je ne veux pas venir parce que j'ai envie d'un moment de tranquillité, mais ce n'est pas un nom de fermeture, ce n'est pas un nom contre.
Ah oui.
En fait, c'est même encore un oui. C'est un étrange oui parce qu'il dit vocalement non, mais c'est encore un oui.
C'est
parce
un oui que c'est... à mes besoins.
Voilà. Ouais. Et donc, par ignorance de la puissance des vrais oui, on dit des non. Mais non, celui qui dit non, je ne viens pas, en fait, c'est parce qu'il dit oui, j'ai besoin ce soir de solitude, oui, j'ai besoin ce soir de ceci ou de cela. Mais ce n'est pas un non. C'est par absence de conscience du oui qu'on croit dire non.
C'est très intéressant ce point de vue.
Donc moi, vous savez, quand vous enseignez à allumer la lumière, vous n'avez plus à vous préoccuper de l'obscurité. Le problème de l'obscurité se résout par lui-même. En fait, il n'a jamais été un problème. On n'a jamais un problème d'obscurité. On a toujours un problème d'ampoule, d'interrupteur, de panne électrique, de ce que vous voulez. C'est toujours l'absence de lumière. C'est l'absence de vrai oui qui crée des problèmes de non.
Alors, pour mieux peut-être sentir ce que vous nous partagez, est-ce qu'on pourrait parler de l'épreuve que vous avez traversée? Parce que ça a quand même dû être, j'imagine, un sacré terrain d'entraînement du non au oui.
Ben, l'épreuve, c'est qu'à 40 ans, j'en ai 61 aujourd'hui, à 40 ans, alors que je suis très, très bonne forme, je n'ai jamais été à l'hôpital, je n'ai jamais été malade, je dirais gravement, pas plus que des rhumes ou des grippes. Je vais tomber très très gravement malade avec une maladie auto-immune qui va me mettre en fait dans le coma, avec des années d'hôpital, je vais être dialysé pendant 12 ans, greffé du rein, greffé de la moelle, avoir un cancer là-dessus. Enfin bref, je ne vais pas sortir mes médailles comme un colonel russe de ces maladies, mais j'ai un pédigré pathologique très impressionnant.
Vous avez frôlé la mort même ?
Oh, plusieurs fois, oui. Mais... Oh, oui, oui. Et donc, oui, je pense que j'étais à la grande école du oui, parce que dire oui à la maladie, c'est clair. D'abord, je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai mis au moins 2 ans. Non, il m'a fallu mes 2 premières années de maladie où j'ai d'abord dit beaucoup non. Et à force de dire des non, d'ailleurs, la maladie ne cessait de s'aggraver. Et c'est la pire période dans ma maladie, d'ailleurs, les 2 premières années, parce que je ne suis qu'un non. Et ce refus... Ce refus me ferme et j'aggrave tout. J'ai appris, j'ai été accompagné évidemment par mon mentor, j'ai été évidemment accompagné par mon expérience aussi par rapport aux addictions. Toute cette connaissance du vrai oui, ben, j'ai dû la mettre en pratique là, au comble de la difficulté dans la maladie. Et c'est cette puissance de me dire à quoi je peux dire oui à la maladie. Comment on peut dire oui à une maladie aussi grave, aussi douloureuse ? Parce que alors, c'était très douloureux. Eh bien, on y arrive. Et il y a de vrais oui qui nous ouvrent des portes invraisemblables. Difficile aujourd'hui, d'ailleurs, à dire aux hommes, parce qu'on touche à des endroits où nous sommes trop peu à le vivre. Ça appartient encore presque au domaine de la foi, alors qu'en fait, ce n'est même pas du domaine de la foi. C'est du domaine du naturel, mais comme nous sommes peu nombreux à le vivre, les hommes le mettent encore un peu dans le surnaturel. Alors que le surnaturel n'est que le naturel méconnu. C'est par méconnaissance que les hommes mettent ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai vécu dans le monde du surnaturel. Parce que moi, je sais de l'intérieur qu'il n'y a rien de surnaturel. Ce que j'ai vécu est en fait ordinaire. ordinaire, pas banal, mais ordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais ceci dit, dans un monde qui ignore ces forces-là, qui est exclusivement tourné vers les solutions extérieures que j'ai utilisées, et je remercie le corps médical, et j'ai appris à dire oui à mes médecins, à mes infirmières, à mes traitements. J'ai dû dire oui à plein de choses du monde médical, et ce qui m'a d'ailleurs mis et qui me met toujours en paix avec eux et en gratitude. Parce que la grande force du oui, c'est qu'il nous rend plein de gratitude. Et la gratitude a des pouvoirs, y compris sur la biologie, incroyables.
De guérison, vous diriez.
Mais écoutez, quand vous déprimez, quand vous dites merde à tout, et que vous rentrez dans une grande dépression, qui doute que la dépression finit par se déposer organiquement sur votre corps et que ça va finir par attirer des problèmes, y compris biologiques?
Oui.
Personne.
Non.
Alors pourquoi merci au lieu de merde? Pourquoi merci? Pourquoi la gratitude n'aurait pas, mais cette fois-ci du côté vivifiant, les mêmes effets? Il faut être dans un drôle de monde pour que le côté destructeur reçoive notre approbation, notre croyance, et que le côté constructeur reçoive nos doutes et reçoive même parfois nos ricanements, y compris par la science. Ben ça, c'est pas très juste. J'ai pas à le juger, mais c'est pas très juste. Ce qui fonctionne dans une direction fonctionne dans l'autre.
Alors, si vous deviez, nous avons parlé de maladie, de mort, si par exemple vous deviez mourir demain, quel serait le message que vous auriez envie de transmettre aujourd'hui?
Que je devrais dire oui à ma mort, et que je pense que ce oui serait un passeport pour une nouvelle aventure.
Merci Ramon.